Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir à tous ou bonjour, selon si vous nous écoutez en direct sur Radio Campus dans la Conspiration des Planches, en direct en tout cas le mercredi entre 19h et 19h30 et en rediffusion le jeudi à 13h30 juste après votre Midi Express. On est ensemble eh bien, pour parcourir l'actualité des scènes à Bruxelles cette semaine avec pas mal de choses, on y reviendra dans quelques instants. Juste vous dire que vous êtes bien sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles et au programme de cette Conspiration des Planches, du théâtre tout d'abord avec les jumeaux vénitiens du Goldoni sur la scène du National. Mathias Simon s'empare d'un classique italien, puis ce sera du Labiche avec les 37 sous de Monsieur Montaudoin accompagné d'Impayable, on en parlera, c'est Michel Castellon-Bogen aux commandes. Après, Nurten nous rejoindra pour nous parler de danse avec The Lee Elroy Show, nouvelle création de Hans van den Broek au Brigittine, et quelques annonces pour clore cette émission. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette conspiration pour parler bien tout d'abord des jumeaux vénitiens. Et on ne va pas à Venise, on va d'abord à Vérone, c'est ça hein?
Oui, avec une pièce de Carlo Goldoni. Par contre, on voyage dans le temps parce que c'est une pièce qui date du XVIIIe siècle. Carlo Goldoni, on connaît bien son style assez classique, sauf qu'ici, c'est sacrément dépoussiéré par Mathias Simon.
Mmh. Alors l'histoire, on va revenir peut-être pour planter le décor d'abord, c'est l'histoire. Deux jumeaux qui ne se sont plus vus depuis l'enfance. Et figurez-vous, eh bien, comme dans toute bonne vieille comédie classique, on va jouer sur leur ressemblance. Il sera question d'amour, puisque les deux arrivent à Vérone pour rencontrer leur promise, leur fiancée. Et ça va entraîner, leur ressemblance va entraîner quelques imbroglio, où on va les confondre, bien évidemment. Et outre les histoires d'amour, il y aura des questions d'argent également, de vol, mais aussi de vertu, hein. Est-ce que ces jeunes filles vont perdre leur vertu avant le mariage? Des thèmes somme toute assez classiques, c'est peut-être pas là que réside l'intérêt de cette pièce. Tu le disais, c'est dépoussiéré par Mathias Simon.
Oui, à dire peut-être quand même qu'il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de ces deux jumeaux et de leur promise. Il y a les valets, évidemment, qui vont essayer de profiter de la situation. Il y a en effet un confident vertueux qui, en fait, cache mal ses pulsions charnelles pour une des jeunes femmes. Il y a des amis qui sont finalement assez traîtres. Enfin, il y a plein de personnages qui viennent... nourrir cette chaîne infinie de quiproquos. Mais c'est vrai que ce qui bluffe surtout, c'est la mise en scène et aussi la scénographie, je dirais. Parce qu'en fait, on est là dans une pièce qui parle du dédoublement, puisqu'on a des jumeaux, mais chaque personnage a en fait sa face cachée, hein, un double de lui-même plus sombre. Et ça, c'est rendu par une belle idée, je trouve. C'est-à-dire que sur le plateau du Théâtre National, on a mis un sol de miroir qui renvoie le reflet des comédiens en permanence. Donc on a cette idée de double. Parfois, l'image des comédiens est plutôt projetée en ombre sur une toile de fond. Et en plus de ça, il y a un dispositif assez malin, je trouve. Donc le décor, c'est une toile de fond d'un
avec un paysage urbain,
d'une ville indéfinie, avec un large ciel. Sauf que derrière cette toile, il a installé des échafaudages. Ça, on ne le comprend que dans la deuxième partie, parce que tout à coup, les coulisses sont révélées, dévoilées. Mais au début, ça crée un effet intéressant, parce qu'on voit seulement les pieds des comédiens au début, et puis on voit ses pieds qui se soulèvent, et puis on va les voir tanguer dans les airs ou sauter à pieds joints. Ça dynamise encore plus cette mise en scène qui est très bondissante dans le jeu également des comédiens.
Oui, parce qu'on s'attend généralement, enfin, on s'attend. Ce genre de pièce est généralement créé dans une ambiance de théâtre très tôt, avec des costumes assez fournis, on dira, des décors qui le sont tout autant. Ici, on est dans quelque chose de très dépouillé. Dans les costumes, on est dans quelque chose qui rappelle certaines choses, ou en tout cas avec un coup de fouet moderne, en tout cas aux costumes de l'époque. Comme tu le disais, le jeu du double avec le miroir. Et un seul comédien pour jouer les jumeaux.
Oui, alors ça, c'est une sacrée performance de Fabrice Murgia, qui en effet aussi entre le jumeau un peu sot et le jumeau plutôt malin. Et il passe de l'un à l'autre avec une facilité étonnante, surtout qu'à la fin, tout ça s'accélère. Et puis, il joue avec des accessoires comme ça, mais à chaque fois, on sait quel jumeau il joue. Mm-hmm. Et puis, il brouille les pistes au bout d'un moment. Donc ça, c'est vraiment une super belle performance. Jouer encore une fois dans un style qui s'éloigne du registre classique.
Parce qu'il y a un jeu sur le texte aussi. On n'est plus dans un texte classique, on n'est plus dans un texte versifié. On est vraiment dans quelque chose très contemporain. On a du mal à retrouver peut-être la langue de Goldoni, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a eu du travail là-dessus.
Oui, il y a une super belle adaptation, très moderne, mais sans que ce soit forcé, parce que parfois, c'est un petit peu, on y va avec les gros sabots et on massacre un petit peu le texte. Là, c'est tout à fait naturel, ça colle très bien au jeu très moderne des comédiens. Et en tout cas, à la première hier, il y avait une centaine d'adolescents qui étaient là et qui ont adoré, qui ont applaudi à tout rompre à la fin. Ce qui montre que ce Goldoni adapté à la sauce moderne marche très bien avec la jeunesse d'aujourd'hui, ça leur parle.
Alors, comme tu disais aussi, la pièce veut faire briser les miroirs qui nous renvoient souvent une image ici qui paraît parfois fausse, en effet, dans les personnages. Et tu disais aussi, donc, à travers cette toile, on voit parfois ce jeu sur les coulisses. Il y a aussi parfois, sur le côté, les comédiens qui se changent, ça c'est vers la fin du spectacle, où là, on a l'impression qu'on joue en toute transparence et qu'on laisse tomber les faux-semblants, qu'on laisse tomber les masques pour le dénouement de l'intrigue, bien qu'elle pourrait s'embrouiller dans cette confusion des identités comme le joue si bien Fabrice Murgia, mais l'intrigue est respectée jusqu'au bout. Et elle s'en moque d'ailleurs. Oui. Je trouve que la mise en scène se moque de l'intrigue.
Oui, et montre le théâtre finalement. On ne se cache pas, on est là, on est des comédiens, on joue du théâtre et on vous le montre dans toute sa transparence. Alors le seul bémol peut-être, c'est que, mais ça c'est pas la faute des comédiens ni de la mise en scène, c'est que le texte au bout d'un moment tourne un petit peu en rond, se répète beaucoup.
Par l'intrigue en fait.
Oui, par l'intrigue, mais les effets de jeu et de mise en scène compensent largement.
C'était donc une belle première ici. On espère que ça se poursuivra encore jusqu'au 7 décembre du côté du Théâtre National, en coproduction avec le Théâtre de Liège de Namur et le Théâtre de Genève, je crois. Ça se tournera en tout cas en saison 2014-2015. Mais pour l'instant, donc, c'est à Bruxelles, au Théâtre National, jusqu'au 7 décembre. Peut-être quelques autres noms de la distribution. Donc, on a cité Fabrice Murgia, Fabrice Schillaci, également, Vincent Cahé en prêtre formidable et plein d'autres encore, Vincent Enbico également, donc qui sont présents sur la scène, dans cette mise en scène.
C'est rare d'ailleurs de voir une distribution qui mêle comme ça les générations, parce qu'on a tous les âges.
Très éclectique donc que cette distribution choisie par Mathias Simon, www.theatrenational.be pour aller voir les jumeaux vénitiens. On reste dans un texte qui n'est pas d'aujourd'hui, La Biche, enfin, du moins pour la première partie. La Biche à deux facettes, on va le dire. C'est Michel Castagnolone-Bogen qui nous l'offre, du moins du côté du théâtre Le Public, avec en première partie un La Biche.
Oui, alors on peut dire quand même que sur ce coup-là, Michel Castagnolone-Bogen donne largement de sa personne, puisque non seulement il joue et met en scène les 37 sous de Monsieur Montaudoin, d'Eugène Labiche, qui compose la première partie, mais en plus, après un entracte de 20 minutes, on le retrouve seul sur scène dans un texte qu'il a écrit, même s'il s'est inspiré d'autres plumes comme Claude Semal, Thomas Gunzig, Alex Vizorek. Il a composé lui-même ce texte impayable qu'il joue sur scène pendant une heure. Alors c'est quand même une performance, il faut le reconnaître. Deux parties très contrastées, donc. La première très classique, beaucoup plus classique que ce qu'on vient de décrire avec le Goldoni. Donc là, on est dans un Labiche comme on pourrait s'y attendre, avec les portes qui claquent, des effets assez forcés. Un Michel Castagnolone-Bogen qui joue pas mal, Monsieur Montaudoin, dans un style qui flirte presque avec Louis de Funès, d'ailleurs, je trouve. L'histoire est assez simple. Monsieur Montaudoin va marier sa fille, sauf que tous les jours, il remarque qu'on lui vole 37 sous. Et là, vraiment, il en a marre. Il veut connaître le fin mot de l'histoire. Et en ce jour de mariage, il va mener son enquête. Et je ne vous révèle pas la suite, évidemment. Donc, il y a une petite amorce dans cette intrigue par rapport à l'argent. Thème qu'il va évidemment creuser dans la deuxième partie, puisque ça s'appelle Impayable. Et c'est donc Michel Kassenlenbogen, qui est directeur du Théâtre Le Public, qui aborde de front cette question de l'argent, notre rapport à l'argent. Alors c'est quand même risqué de sa part, puisqu'il tend un peu la perche à ses détracteurs. Beaucoup sont sans doute jaloux du succès de son théâtre. Trois salles qui sont toujours remplies. Voilà, un théâtre qui était d'abord privé et puis qui est devenu en partie subventionné. Sauf que il accomplit là un seul en scène assez soufflant quand même, dans un style très naturel, dans une forme de stand-up. Il prend le public à partie. Il le fait beaucoup participer d'ailleurs. Alors il commence en posant quelques questions indiscrètes, des questions assez intimes, du style « à quel âge vous avez fait l'amour pour la première fois ?» Alors là, les gens rigolent, évidemment, il y a quelques mains qui se lèvent, les gens sont prêts à se confesser, et puis tout à coup, il s'adresse à un bonhomme dans le public et lui dit « Et vous, monsieur, quel est le montant total de votre fortune personnelle ?» Comme ça, de but en blanc, évidemment, le bonhomme ne répond pas, et là, il commence en disant « Vous voyez, on peut révéler des choses sur nous, mais notre rapport à l'argent est quand même très tabou. » À partir de là, il raconte plein d'anecdotes, des études par rapport au bonheur, notamment une étude suisse qui aurait montré que de 300 à 30 000 euros, le bonheur augmente de manière conséquente, mais de 30 000 à 3 milliards, quasiment plus. Donc, évidemment, hormis un seuil de pauvreté extrême, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc voilà des choses toutes bêtes, mais qui font du sens, qui vont un petit peu dans le même sens que d'autres thèmes abordés au théâtre. On a notamment pu voir Money de Françoise Bloch, qui abordait ce thème-là de manière un peu plus subtile, peut-être. Mais il y a d'autres... En librairie, par exemple, il y a des livres qui font fureur sur ce thème-là, hein, de la redistribution des richesses aujourd'hui. Donc, c'est un seul en scène tout à fait divertissant et qui fait réfléchir.
Et ce qui est original aussi, c'est que d'habitude, on joint deux pièces de la biche, hein, des pièces qui sont souvent très courtes. Et voilà, bon, on a un service complet. Ici, le service change un petit peu, puisque Kassenlenbogen veut, en tout cas, faire parler la biche aujourd'hui, du moins partir de cette question de l'argent. Est-ce que les deux parties se parlent vraiment? Est-ce qu'il y fait référence dans la deuxième partie?
Non. Je trouve que la première partie est bien menée, mais sans grande originalité. Que si on y va, c'est surtout pour la deuxième partie. Surtout qu'il a plein d'humour et plein d'autodérision. Il arrive...
Qu'il pousse la chansonnette aussi.
Alors, il chante, mais en plus, le rideau s'ouvre sur lui en train de baigner dans une baignoire remplie de billets, de faux billets, évidemment. Et puis il sort, et puis il a un costume lui-même cousu de faux billets, et puis il ouvre son costume, et puis il a une espèce de ceinture de billets, comme une espèce de ceinture d'explosifs. Il chante, il a une bonne présence sur scène et un naturel assez impressionnant.
J'ai l'impression qu'il l'a testé un petit peu déjà dans sa mise en scène du Bourgeois Gentilhomme, où il apparaissait au départ sur scène, seul, face au public, accompagné ici musicalement, en direct.
Oui, par Pascal Charpentier.
Au piano.
Au piano.
Les 37 sous de Monsieur Montaudoin de Gêne la Biche par Michel Kassenlenbogen, suivi d'Impayable par le même. C'est à découvrir jusqu'au 31 décembre au Théâtre Le Public. C'est un des spectacles de fin d'année proposés par ce théâtre, www.theatrelepublic.be. On va se quitter pour une petite pause musicale. On va parler de danse juste après ceci. Et justement, ce qu'on vous propose là, c'est d'entendre un extrait musical de Lee Elroy Show. On en parle juste après ceci. Il faut attendre un petit peu parce que ça monte tout doucement.
La constellation.
Voilà donc The Dahlia Revenge. C'est un extrait musical de Lee Elroy Show dans La Conspiration des Planches. On en parle tout de suite avec Nurten qui nous rejoint au téléphone. Bonjour Nurten.
Bonjour, bonsoir.
Nouvelle création d'Hans van der Broek qui nous avait déjà fourni Messiah Run, qui avait été un beau succès, hein, je crois, de ce spectacle. Moi, je ne l'avais pas vu, mais je crois que toi, tu l'avais vu. Ici, on part de la littérature américaine dans un spectacle de danse.
En effet, alors Hans van den Broek, donc chorégraphe flamand au Prigitine, ce qui est très intéressant, ce qui m'a surpris, c'est que d'un spectacle à l'autre, on est complètement dans des univers, un matériau très différent. Donc on se dit, voilà, c'est rassurant de voir un artiste qui n'a pas de tic, quoi. Vraiment, c'est une nouvelle proposition. Alors là, c'est très étrange, donc c'est l'univers un peu dark de James Ellroy, hein, qui est mis en... scène et d'emblée on entre dans une atmosphère, c'est très intime, on est face à une espèce de miroir transparent où on voit à travers une dame en tout cas. Et quand la lumière arrive et que le spectacle démarre, en fait on voit que c'est un intérieur très transparent, genre en plexiglas. Et on voit tout autour un gars rouler à vélo. Alors, il faut savoir que cette pièce part du roman autobiographique La part de l'ombre de James Ellroy, qui, nom de Dieu, n'a pas eu une vie heureuse parce que le drame fondateur, on va dire quasi, de sa vie, c'est que sa mère a été assassinée. Donc, on est dans les années 50 à Las Vegas, dans les quartiers populaux, et ça n'a jamais été retrouvé. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Donc, le gamin a vécu avec une mère qu'il n'a pas eue, un assassinat qui n'est pas élucidé, et voilà comme bagage. Donc il a été repris chez son père, et puis il a tracé dans la délinquance, un parcours de fou, drogue, tout ce qu'on veut. Et puis là-dedans, il y a l'écriture. Donc il y a cette écriture qui est très sombre. D'ailleurs, La part de l'ombre fait partie d'une trilogie sur l'Amérique, les souterrains de l'Amérique, quoi. Donc il y a vraiment cet univers. Alors ce qui est étonnant, c'est que le spectacle commence dans ces fameux shows américains, hein. Donc micro, il met une cravate, ils font un peu des danses années 50. Donc il y a cette américaine, société américaine conservative. Et en même temps, dans cette musique, il y a une partie où on interview l'écrivain James Ellroy. Et le mec, il balance des trucs très crasses sur une société de pédéraste. Et il y a les claps de rire. Donc il y a vraiment cet univers où on se demande, d'ailleurs, moi je me suis dit, bon, elle est où la danse finalement ? Cette petite danse de salon.
Elle donc, est où de... Je te la pose la question.
Voilà, au début on se demande qu'est-ce que c'est, théâtre sans parole, installation de théâtre, et puis tout doucement on rentre dans quelque chose de plus sombre où la danse s'infiltre, parce qu'à un moment donné on va voir l'assassinat de la maman qui est très forte, parce que la danseuse, donc ils sont à deux, hein, la danseuse rentre du fond de la scène et elle se plaque le dos sur la baie vitrée qui est vraiment au mur de scène. On voit vraiment une écharpe comme ça dans son dos qui est très effrayant. Et à un moment donné, tout s'assombrit avec un jeu de stromboscope où il y a une danse véritablement de fauve, parce qu'entre l'homme et la femme, il y a en plus une peau d'animal qui les sépare. Et ils rentrent comme ça dans un combat au début très doux, d'échange comme ça, de sensualité. Et on se dit que la bonne femme a fait une mauvaise rencontre un soir dans un bar. Et alors on voit... dans cette danse qui est imbriquée l'un dans l'autre, de plus en plus violent, de plus en plus sauvage, qui finit évidemment tous à terre et mort. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on rentre dans le côté dark et le côté sombre. Et la musique suit avec. Moi qui aime assez bien les stroboscopes, il y a vraiment un très beau jeu de lumière, de musique et deux interprètes très forts là-dedans. Et on va rentrer justement donc dans cette histoire, dans le récit du livre qui se faufile tout le long de la pièce, hein, parce qu'il y aura des mots. Et toutes les parties, à un moment donné, est dansée, est théâtrale, et surtout installation, performance. À un moment donné, il y a une scène ultra émouvante, c'est qu'avec, après cette danse de fauve, le fils et la mère vont se tatouer à l'encre sur la peau « Man and Boy », tu vois, une grande trace. Mm-hmm. Ils vont se faire une bâche, à un moment donné, construire une mini-bâche, et prendre la pose du fœtus. Et à ce moment-là, la danse, c'est curieux, hein, c'est la danse des mains, hein, de ce fœtus comme ça, qui est très, très, très beau, ça dure, c'est une musique très, très douce. Et à un moment donné, on va basculer, sans s'en rendre compte, dans un univers de guerre, où ils vont s'enrouler dans cette bâche, et on revoit la violence de la danse avec la musique de guerre. Et tout doucement, on va filer vers un univers de paradis perdu. Comment, à un moment donné, ils disparaissent derrière le mur et on les voit courir au loin à poil avec une musique de circonstance qui fait très paradis perdu. Et surtout, à la fin, il y a ce message quand même, c'est qu'avons-nous fait pour être aussi mal, d'où vient le mal? Et là, on voit tout un faisceau qui illumine au loin une espèce de loup avec le bruit de loup et la boucle semble être bouclée dans ce paysage qui finalement nous laisse sombre. Donc on suit l'univers du gamin. En plus, l'interprète joue l'enfant, joue James Ellroy adulte, joue l'assassin probablement dans cette danse animale. Et la jeune fille, elle joue la présentatrice, elle joue la mère.
Ça fait très David Lynch dans ce que tu décris dans l'atmosphère, non ?
Moi, j'aurais dit vraiment peut-être un tableau d'Hooper, comme ça, c'est Amérique. Il n'y a pas le côté mystérieux. L'œuvre est très lisible, donc très abordable pour le tout public. Et en même temps, il y a un beau travail de contemporain qui mélange. Évidemment, il y a quelque chose de cinéma, il y a quelque chose d'installation, il y a quelque chose de théâtre. À un moment donné, je me suis dit, mais on est dans le théâtre, on est dans le théâtre sans parole, on est dans la performance. Et puis finalement, ça prend corps parce que l'œuvre en soi, elle est hyper cohérente.
Je voudrais t'interrompre, Nurten, juste pour dire qu'on entend en fond sonore encore un extrait musical. C'est James Brown qui compose, pas le James Brown bien connu, un autre James Brown qui nous a fourni les morceaux de cette pièce, pour bien montrer aussi les différences d'ambiance dans ce spectacle. Une question que j'avais à te poser quand même, Nurten, chez James Ellroy, la ville est un acteur du roman, est un acteur des histoires, Los Angeles, qui bouge et qui est très sombre, en effet. Est-ce qu'on retrouve des éléments peut-être urbains, oserais-je dire, dans ce spectacle ?
Dans ce décor où il y a cette maison en verre, où le gamin tourne à vélo, à un moment donné, il y a le fond sonore d'une autoroute et des villes, des voitures, donc des éclairages, des phares, et qui est très discret, c'est très en noir et blanc. Donc la ville vient essentiellement de là. Mais ici, le chorégraphe a voulu rentrer dans le mental.
Oui.
Donc la ville, elle est écartée. C'est essayer de retrouver et peut-être de faire, faire revivre. En tout cas, il parle par exemple dans ses notes d'intention de faire un vide viscéral et sauvage de cet univers. Et il y a des apaisements, des moments de sauvagerie comme ça dans la danse. La musique qu'on entend là, qui est très douce, c'est la période, c'est le moment où il se retrouve à l'état de et la mère et le fils. Et c'est très étonnant parce que c'était tout à fait inattendu. Donc on rentre vraiment dans plusieurs âges aussi de cette histoire et dans le récit mère-enfant, sans que ce soit surligné, dans un vrai travail contemporain d'installation, de danse, de théâtre. Et en même temps, ultra abordable, ça se regarde, j'allais dire, comme une série, mais un peu une série d'art et d'essai.
The Lee Ellroy Show de Hans van den Broek, inspiré de la vie, de l'autobiographie de James Ellroy, c'est à voir jusqu'à ce samedi du côté des Brigittines, un duo donc dansé, performé sur la scène des Brigittines. Alors, je voudrais
juste à citer les noms quand même de temps en temps,
vas-y.
Ça nous fait du bien, c'est Jake Ingram Dodd et Anushka Van Oppen. Donc voilà, on est dans une distribution internationale. D'ailleurs, il le fait à l'accent américain, très impressionnant. Et à deux, ils ont une formation de danseurs qui est assez impressionnante. Mais c'est surtout un travail choral. Les gars qui ont fait la musique, création donc de James Brown, le son, le décor, la lumière de Giacomo Gorini. Enfin, il y a un vrai beau travail collectif et choral là-dedans qui est impressionnant.
À conseiller, donc, www.brigittine.be. Quelques petites annonces danse.
Allez, un truc très fun. La Tentation, le vendredi 22, c'est les 20 ans du bal moderne. Vous cette superbe idée.
Du bal moderne, oui.
On nous montre 2-3 pas, on y va tous ensemble. Et alors, le but, c'est quand même fait par des chorégraphes au vol quand même. Il y a eu Anne-Theresa, il y a eu Wim van de Kuybus. Et donc, ici, s'organise Kai et Cécilie Larbi Cherkaoui. Donc apprendre une petite chorégraphie de Cherkaoui et après la danser tous ensemble. Donc dans le 22.
Ce sera donc ce vendredi du côté de la Tentation, c'est bien ça, rue de la Queune.
Voilà. Rue de la Tentation.
Et autre chose encore ?
Alors une dame que j'avais envie de suivre, j'entends beaucoup, donc elle joue en Flandre, c'est une comédienne qui s'appelle Apke Haring. Et qui fait de temps en temps ses spectacles depuis quelques années. Elle est du côté du tunnel Euys, Guy Cassir et toute la clique. Ici, elle fait un spectacle qui s'appelle Trainer. Et ça rejoint un peu les sujets de société que Catherine parlait en première partie. Ici, c'est l'homme-machine, donc, c'est-à-dire le travail à la chaîne absurdissant. Donc, une réflexion sur le monde du travail, encore et toujours, le travail à la chaîne. Sauf que, on dit, c'est une pièce basée sur l'installation et le physique, donc un spectacle physique, basé sur le rythme, la réinterprétation, donc la répétition, et alors un truc très curieux, il faudra qu'on m'explique, la sensualité.
Ah, il faudra le voir hein, pour ça.
Je suis curieux de voir le travail à la chaîne, la sensualité, le rythme, je le comprends, la répétition, bien sûr, mais alors la sensualité, elle dit dans ses notes d'intention que ça joue un rôle important.
Même Chaplin ne nous avait pas fait ça dans les temps modernes.
Donc voilà, ils sont à 5-6. Je me dis que c'est un travail à découvrir, d'Apke Haring, donc le 23 au CAI Théâtre.
Ce samedi.
C'est un des spectacles qui est invité au Next Festival, donc des festivals du langage contemporain, des esthétiques très contemporaines.
www.caitheater.be. Merci Nurten, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Et nous, on va se quitter en citant juste une reprise du côté du théâtre de Poche à partir de mardi prochain, les monologues de la marijuana. On est un petit peu dans les monologues du vagin, mais avec un tout autre sujet, Catherine, en 30 secondes.
C'est ça, c'est sur le joint, mais dans la même forme que les monologues du vagin. Donc, trois personnes sur scène, cette fois-ci, ce sont trois hommes. Et on va parler de joint, de joint, de joint. Mais avec beaucoup d'humour, c'est un spectacle tout à fait divertissant, qui n'encourage pas du tout à la consommation, qui aborde tous les aspects, qui aborde la légalité également, ou l'illégalité, enfin, qui aborde des questions intéressantes, mais tout en s'amusant.
C'est le plaisir qui est au centre de spectacle, on le sent bien. Un spectacle qui nous vient des États-Unis et qui est interprété donc sur scène par James Dino, Riton Liman, et je sais qu'il y a un nouveau comédien qui remplace Achille Rinolfi, mais j'ai pas le nom. On vous mettra ça de toute façon sur notre site internet. Merci, c'était La Conspiration des Planches sur Radio Campus, l'émission critique des arts de la scène. Rediffusion ce jeudi à 13h30 et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres critiques. Belle semaine à vous et belle planche. La constelación.